Chapitre 3. Le petit sycambre. Quand je traversais en courant la longue galerie où trépignaient les émissaires accrédités du palais, je ne me sentais plus tout à fait chez moi, sur la rive de mes affections de Lescaut à Tournai. Les paroles que j'entendais ricocher sur les grandes parois enduites de résine me transportaient au loin, sur les bords du Rhin, du Danube, du Tibre ou du Bosphore. Sous les portiques des solliciteurs, l'oreille essuyait toute une babillerie d'éraillements et de langages éborgnés, le bructère, le gothique, le burgonde, le saxon, et même les raclements de gosier des Huns. La langue de pourpre des ambassaderies de Rome se tenait à l'écart de ces brondissements. On la parlait plutôt au salutatorium. Mon père, pourtant élevé dans la langue francique, entendait de la même oreille toutes les sonorités d'amertume des germanités éteintes. Il avait apprivoisé, depuis son plus jeune âge, les vieilles consonances singulières de chaque forêt, de chaque rivière, de chaque tribu. Quand il s'allongeait au lit de table, il se piquait de parler à la tunique de veau marin comme à la toge. Il conversait avec tous ses commensaux dans leur propre langue. Pourtant, son cœur brûlait du désir ardent que j'apprenne d'abord la lingua romana, la langue des scribes. Au motif que j'aurais plus tard à commander les services des écritures royales, exerçant leurs agilités dans les vieilles locutions d'empire ou encore à m'entretenir avec les référendaires formés à l'école romaine ou même, plus simplement, à comprendre les codes de la loi salique, tous écrits en latin. Les literatores, instruits dans les belles lettres, avaient pour mission de répandre des clartés dans nos esprits enténébrés. Ce fut, je le mesure mieux aujourd'hui, une chance pour moi d'être édifié par un jeune homme venant du monde des clarissimes de la Gaule romaine. Il était un magistère de grands scrupules et de large entendement sur tous les confins de l'orbis. Il s'appelait Eleutheros. Il me dispensait ses savoirs avec des sévérités bienveillantes. « Hors de ces murs, me disait-il, j'obéis au prince que vous êtes et dont je suis le sujet. Mais ici, entre ces clés, c'est moi le maître, le nutritor, celui qui nourrit, et vous êtes mon élève, le nutritus, celui qui vient vers moi pour être nourri. » Il avait à peu près 20 ans. On le savait frotté de haute sapience. Son père, Sérénus, et sa mère, Blanda, étaient de noble origine sénatoriale et jouissaient d'une grande aisance. Un de ses ancêtres, Irénée, fut, à ce qu'il nous confia avec fierté, un des premiers habitants de Tournai. Il embrassa la foi trinitaire du concile de Nicée à la voix de Saint Piat. À la fin du jour, il allait se recueillir auprès d'un rocher, dans un oratoire palissadé de noisetiers. Il semblait très attaché à la Romanitas, mais ne croyait plus à l'Eternitas Romae, la Rome éternelle. « Hélas, se lamentait-il, il n'y a plus de patrie de sentiment. Sur les terres de l'Empire se croisent des errants et des migrants. Les premiers sont les Romains, qui ne savent plus où ils habitent, et les seconds sont les barbares, qui ne l'ont jamais su. Le monde va vers sa fin. Rome n'est plus dans Rome, mais dans les eaux croupissantes de Ravenne. Quel symbole ! La latinité n'est plus que le dernier soupir d'une civilisation expirante, celle de la souveraineté de l'esprit. Bientôt il ne restera comme seule marque de noblesse dans nos ensauvagements que de connaître les lettres. Ce sera l'ultime distinction. À Rome, on a perdu son grec, et en Gaule, on perd son latin. » Il ajoutait avec un sourire, en nous regardant dans les yeux, « Si les fils des derniers patriciens d'exacte fidélité du Latium ne font rempart ni de leur corps, ni de leur langue, pour protéger le latin des anciens contre la rouille des barbarismes, nous aurons à pleurer, sous peu, ces prochaines embâtardises et bientôt sa disparition. » Les barbarismes dont il parlait sortaient selon lui des gosiers francs. Ils avaient la couleur de nos voix racleuses. Ils moquaient notre rauque langage en se réclamant d'un empereur très ancien, Julien, je crois, qui comparait le parler francique au croassement des corbeaux. Chacun des scolares éplait les lettres écrites sur des tablettes enduites de cire d'abeille. Parfois, Eleutéros se lamentait de nos lenteurs. « J'implore chaque jour mon Dieu pour qu'il me vienne en aide dans mon impossible tâche, tenir votre main droite pour qu'un jour elle sache manier la plume aussi bien que l'épée. Assurez en vous le passage du rudis, brutal et sommaire, à l'éruditus civilisé, qui vivra de l'otium, le raffinement du loisir, et de l'urbanitas, le savoir-vivre. » Il était sans illusion sur l'esprit du temps qui avait trop de prise sur nous, et il vilipendait les puissants, les possessores. Ils sont la quintessence de la Rome finissante. Trop souvent, ils mettent leur gloire dans l'exhaussement d'un carrosse ou d'une fastueuse exhibition de costume. Leur mollesse succombe sous ces manteaux à trames si déliés qu'une simple agrafe retient autour du cou et qu'on fait voltiger rien qu'en soufflant dessus. Quand on les voit secouer les plis, c'est pour faire valoir les franges vaniteuses de la bordure et les frivolités d'une tunique parsemée de figures de chimères qui font corps avec le tissu. J'en connais, tout près d'ici, le long de l'Escaut, entre Tournai et Cambrai, qui vous viennent de but en blanc, avec un air d'importance, faire parade de leur immense fortune. Ils feignent d'ignorer que leurs ancêtres, qui ont étendu si loin la puissance romaine, ne brillaient guère par la richesse. Le peu de maisons où le culte de l'intelligence était encore en honneur sont aujourd'hui envahies par le seul goût des prélassements. On n'y entend plus que des voix qui modulent et résonnent. Les chanteurs ont chassé les philosophes et les professeurs d'éloquence ont cédé la place aux maîtres.